12h.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, encore au Salon des Maires, donc encore avec un petit peu de bruit autour de nous, et je m'en excuse auprès de vous, chers auditeurs, mais le sujet était trop important et il y a vraiment une personne que j'ai vraiment envie de vous rencontrer, de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'Hermine Chombard de Lauve, directrice du Conseil National de la Résilience Alimentaire. Alors ça, vraiment, c'est un sujet, la résilience alimentaire, on en parle souvent sans en parler quand on va voir des petits agriculteurs sur les territoires, quand on rencontre des acteurs qui nous racontent qu'il faut recréer du lien localement, qu'il faut recréer de l'activité localement, qu'il faut remettre les choses à l'échelle du territoire. Mais là, en plus, il y a un vrai enjeu, celui de la résilience alimentaire. On en a un petit peu entendu parler, on en a un petit peu pris conscience pendant le Covid, mais comme beaucoup de choses dont on a pris conscience pendant le Covid, ça a été malheureusement assez peu suivi des faits, mais on va en parler aujourd'hui, cette résilience alimentaire. On va essayer de vous motiver soit à rejoindre le CNRA, Conseil National de la Résistance de la Résilience Alimentaire. C'est une forme de résistance, le lapsus était assez révélateur. Bonjour Hermine.
Bonjour Nicolas, merci.
Avec toi Hermine, on va parler de cette résilience. Quelle est l'origine de ce Conseil National de la Résilience Alimentaire ?
Merci pour la question. Alors, sans surprise, le CNRA a été créé le lendemain du premier confinement, donc en 2020. Et c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est une douzaine d'entrepreneurs et associatifs qui se sont réunis sur deux constats. Le premier constat, c'est que tout le monde parle d'une alimentation plus saine, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. On est dans un contexte Covid, hein, il faut vraiment se remettre dedans. Il y a plein de solutions d'innovation publique, privée, grosse, petite, citoyenne, individuelle, collective, etc., qui émergent et qui vont œuvrer et participer de cette meilleure alimentation en temps de crise. Et l'autre constat, et malheureusement l'actualité aujourd'hui continue à bien nous donner raison, c'est que finalement les données, les indicateurs, on est loin du compte. Et je ne parle pas que du taux de bio, je ne parle pas que du taux d'obésité infantile, de la transmission des exploitations agricoles, etc. Donc on a créé cette association, et on veut rester associatif pour être désintéressé, avec un but de fédérer et de réunir toutes ces solutions qui sont complètement géniales et qui contribuent individuellement à la résilience alimentaire des territoires.
Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit en préambule, que j'ai oublié de dire, c'est que par exemple nos supermarchés, il faut qu'on le sache, ont 3-4 jours d'avance pour nous nourrir. C'est-à-dire qu'au-delà, si on a un problème sur le territoire d'approvisionnement, pour Paris, si on ne peut plus arriver à Rungis, ça veut dire que c'est une ville qui meurt de faim. C'est-à-dire dans un pays riche comme le nôtre, c'est un pays qui au bout d'un mois peut se retrouver dans un état de siège et de guerre civile absolument terrible.
Ben, vous avez tout à fait raison, cher Nicolas, c'est exactement...
Tutoyer quand même.
Tutoyer, ouais. Tu as tout à fait raison. C'est l'un des enjeux qui sont très forts, c'est-à-dire que la résilience alimentaire n'impose pas d'être 100% local comme on n'est pas 100% circuit long. L'objectif, c'est vraiment l'équilibre. C'est exactement la même chose que le système digestif. Le système alimentaire doit être équilibré et tablé aussi bien sur du local que sur du distanciel. Donc l'objectif, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut concilier les circuits courts avec les circuits longs. Le sujet des stocks que tu évoques, effectivement, on a 2-3 jours de stock qui sont dans les camions, clairement pas. C'est même pas dans les supermarchés, c'est dans les camions, hein, les stocks. Et à Paris, c'est clairement ça, alors qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait 3 mois dans les celliers. Donc il y a quand même une chose qui s'est passée qui est énorme. Tout ça, c'est un système qui s'est construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, très clairement, sur des circuits extrêmement performants, mais tellement performants qu'ils sont hyper fragiles. C'est vraiment cette notion de robustesse.
Nous sommes une civilisation, un colosse, alors thermo-industriel, très lié au pétrole, et qui est un colosse au pied d'argile.
Exactement. Donc nous, notre propos, c'est certainement pas de déconstruire tout ce qui existe, qui est puissant, mais c'est d'être encore une fois sur l'équilibre et de se dire, si on a un bug à l'étranger et qu'on ne peut plus rien importer, mais on ne peut plus bouffer. Si on a un bug local et que toute notre alimentation dépend des 50 km autour de chez nous, un accident climatique ou une pandémie très forte, etc., ou simplement les prix du pétrole, ben finalement, on ne peut plus manger. Donc comment est-ce qu'on met en place une stratégie qui capitalise sur ce qui existe? Attention, il ne s'agit pas de réinventer la roue. On a 90% des solutions, on les a en France. On n'a pas besoin d'aller chercher ou d'inventer des trucs incroyables ou de recréer des choses. On les a. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont ultra performants et chacun dans sa ligne de nage. Donc nous, on veut casser ces silos, entre guillemets, pour avoir une réflexion, une approche collective. Et on dit aux gens, mais travaillez ensemble. Et je terminerai par là, le meilleur territoire d'expérimentation, c'est évidemment notre territoire. C'est là où l'on vit, c'est là où on travaille, c'est là où l'on consomme, c'est là où on éduque nos enfants. Parce que le système alimentaire, on a tendance à l'oublier, mais parce qu'on n'a jamais eu de problème dans notre génération aujourd'hui de savoir ce qu'on allait mettre dans notre assiette. Si ce n'était pas toujours ce qui nous faisait plaisir à nos papilles, c'est au moins on est nourri, notre estomac est rempli. Mais on a une responsabilité forte pour nos enfants. Il y a un bug demain, un gros bug. On a 30 ans, on n'a pas de problème à aller prendre notre brouette et aller chercher des châtaignes, des carottes sauvages, etc. Mais dans les EHPAD, dans les maternelles, la solidarité est au cœur de la réflexion et de la stratégie du CNRA et de cette approche de résilience alimentaire. Et on est obligé d'avoir cette approche éminemment collective et très territorialisée. Donc on est au CNRA très orienté là-dessus, à travailler non seulement avec les acteurs du terrain, à commencer évidemment par les producteurs, mais ça va même avant les producteurs. Avant le champ, il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a la qualité de nos sols. Et puis après l'assiette, il y a comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour équilibrer l'assiette de nos enfants, pour consommer la pièce de bœuf dans son intégralité et pas jeter les morceaux. Donc tout ça, c'est une approche qui est vraiment systémique. Et c'est une chaîne, en fait. C'est vraiment une chaîne. Et la chaîne, elle est solide tant que tous les maillons sont non seulement existants, mais solides. Et si on a un maillon qui ne marche pas au milieu, ben on tire sur les deux bords et la chaîne se pète.
Alors quand tu dis « on », c'est qui? Parce que toi, tu es la directrice, mais vous n'êtes pas beaucoup de salariés, c'est aussi des bénévoles. Et c'est quel genre de bénévoles? C'est des associations qui sont membres, c'est quoi? Comment vous déployez? Après, on va voir surtout comment vous agissez, qu'est-ce que vous faites?
Très clair. Alors qui on est? Effectivement, donc le CNRA est une association et a cette particularité très importante d'avoir deux pieds sur lesquels on avance. Le premier pied, tu l'as compris, c'est le pied de terrain. C'est la preuve par l'exemple. Nous, on n'aime pas les grands mots. On dit, tu fais ça, attends, va voir Tartampion, machin ou bidule, il fait des trucs géniaux. Elle va le voir. Le deuxième pied, c'est qu'on a une approche qui est très, j'ai dit le mot systémique, qui est très transversale. Ça veut dire qu'on va travailler, et le « on », je te réponds, non seulement avec tous les gens du champ à l'assiette, même avant le champ, après l'assiette, mais aussi avec trois types d'acteurs très importants. Les élus, à la fois du territoire, mais aussi les parlementaires qui vont être à l'origine des lois et des réglementations qui en découlent, pour que ce soit connecté à la réalité et à l'actualité. Deuxième type d'acteurs, ça va être les acteurs de la recherche et de l'innovation et de l'enseignement. Parce qu'on est convaincu que la solution de demain, elle n'existe pas encore. Et on a besoin d'innover, on a besoin de continuer à chercher, on a besoin de... Et en France, on a énormément d'acteurs qui ont des idées extraordinaires. Laissons-leur l'espace.
Exemple.
Alors, exemple, mais on en a plein là au sein du CNRA. On a un agriculteur, un éleveur qui a dit, mais en fait, nous on fait des super produits, on ne sait pas où ça va. Et bien tiens, on va inventer un atelier de transformation dans un conteneur maritime. Tu vois les conteneurs qui sont sur les bateaux. Et bien, on va faire une espèce de mini-usine qui va permettre de transformer le lait. Donc le conteneur, il est directement branché sur le tank à lait. Il y a une personne, un ETP, qui travaille dans ce conteneur et qui fait des yaourts.
Et on peut déplacer le conteneur ?
Et on peut déplacer le conteneur, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'on peut aller d'une ferme à l'autre pour permettre à chacun d'en... C'est un atelier mutualisé.
Alors, non, ce n'est pas un atelier mutualisé, mais on peut déplacer le conteneur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'éleveur qui veut transformer son lait chez lui et une partie de sa production pour la revendre à l'Intermarché d'à côté ou dans l'école de ses gamins, par exemple, il veut installer ce conteneur chez lui. Il veut installer ce travail-là chez lui. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que c'est un investissement qui est lourd. Et là, le modèle, il est très agile, il est très léger pour l'agriculteur. Et si, bah parce que c'est la vie, je ne sais pas moi, je te donne un exemple très concret parce que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. L'éleveur a divorcé, c'était son épouse qui travaillait dans le conteneur. Bah, il ne peut plus mener cette activité-là. Qu'est-ce qu'il fait s'il a tout installé en dur ? C'est très compliqué. Là, il se dit, j'ai plus les moyens. Je n'arrive plus, j'ai plus la bande passante. Donc, je vais arrêter cet atelier de transformation et le conteneur va aller être installé chez quelqu'un d'autre. Ça répond aux enjeux du monde d'aujourd'hui. Voilà, de façon très concrète. Donc, je ne sais plus ce que je te disais, mais en tout cas, on a chez nous.
On était dans les « on ». Qui, le genre de personnage, donc là on était sur des agriculteurs, des élus, on va le dire donc en exemple, ça peut être aussi l'élu qui va influer pour que la cantine scolaire soit approvisionnée en alimentation locale. Ça peut être au niveau départemental la mise en place d'un plan alimentaire territorial par exemple. Ça aussi, je vous invite, chers auditeurs, à aller découvrir ce que c'est. Quels autres types de, là on le voit un petit peu, quels autres types de partenaires et d'adhérents vous avez ?
Tout à fait. On a encore deux autres types de membres et de partenaires qui sont très intéressants. On a beaucoup d'associations parce que j'ai parlé de solidarité tout à l'heure. On le sait, en France, la solidarité est beaucoup portée par le monde associatif. Et la France est un pays qui est riche de beaucoup d'associations qui sont extrêmement actives et qui font un travail extraordinaire sur tout le territoire. Donc, elles ont complètement leur place. On n'a pas toujours l'habitude de mêler le monde associatif au monde entrepreneurial, à l'innovation, au monde des élus, etc. Nous, on le fait. Et le dernier acteur avec lequel nous comptons et nous travaillons main dans la main, c'est aussi les acteurs du financement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors bien sûr, il y a le monde de la start-up avec cette stratégie de levée, mais les associations aussi sont dépendantes des financements. Et notre propos au CNRA, ce n'est pas tant... Nous, on ne reçoit pas tellement ces financements, mais on veut s'assurer qu'ils soient fléchés avec une vision systémique à 360 pour soutenir soit le milieu de chaîne qui est défaillant, soit le maillon qui est un peu plus faible, pour que la résilience du territoire s'en trouve renforcée. Et donc on a cette approche, on va travailler avec des fondations, avec des banques, avec des fonds, avec des institutionnels. La Banque des Territoires fait partie aussi du collectif du CNRA par exemple. Donc voilà, donc dans ce « on », il y a cette diversité qui fait notre ADN. Et aujourd'hui, on n'a pas un webinaire, une conférence, on n'a pas une réunion simple sans avoir un minimum de représentativité de cette diversité, parce que c'est ça qui fait l'ADN de la résilience alimentaire. On ne peut pas être résilient qu'entre agriculteurs et pas tout seul, ce n'est pas possible.
Très bien, on va faire une petite pause musicale. Est-ce que tu as envie d'écouter quelque chose ?
Les Rolling Stones.
En avant. Alors nous sommes de retour avec Hermine Chombard de Lauve, donc directrice du Conseil National de la Résilience Alimentaire, le CNRA. On a vu un petit peu qui vous étiez, on a vu l'objectif, ce besoin fondamental d'assurer notre résilience alimentaire, en tout cas de travailler, d'aller dans ce sens, dans un système qui n'est plus résilient, on le sait, et qui est trop fragile pour qu'on reste les bras croisés. Je suis presque militant déjà. tu m'as convaincu. Je voulais voir avec toi comment vous agissiez maintenant. Donc il y a cette histoire, tu viens d'en parler, de financement qui est intéressante, c'est-à-dire aider sur un territoire quand un des maillons qui va permettre la résilience alimentaire a du mal à financer un projet, vous allez pouvoir aller chercher des levées de fonds. Mais je suppose qu'il y a d'autres, il y a le plaidoyer auprès des élus. Ça c'est la base, hein, je suppose, au niveau des parlementaires. D'essayer de changer les choses, il y a quoi d'autre ?
Alors, avant les trois axes de travail qu'on a au CNRA, je voudrais partager un état d'esprit. C'est-à-dire que quand on allume la radio aujourd'hui, et je ne parle pas de toi bien sûr Nicolas, mais quand on allume la radio, très souvent c'est plombant. On a des mauvaises nouvelles qui se succèdent les unes après les autres et c'est très anxiogène. Notre ADN au CNRA, c'est avant tout la bonne humeur. Donc nous, on regarde le verre moitié plein plutôt que le verre moitié vide. Les solutions sont là, elles existent et elles sont portées par des gens qui sont extraordinaires, tous individuellement. Et la solution parfaite, c'est la somme de toutes ces petites solutions. Donc ça, c'est notre ADN.
Moi, dans une association, quand on créait un festival sur l'écologie et la résilience alimentaire en particulier, et on disait un problème, trois solutions dont une éthique.
C'est exactement ça. Nous, on est tout à fait comme ça. Et on ne dit pas, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle-là qu'il faut prendre. Il y a plein de solutions sur étagère. Choisissez celle qui vous correspond. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la résilience alimentaire est un chemin qui est propre à chaque territoire. En fonction, bien sûr, de son contexte pédoclimatique, mais aussi sociologique, et de son appétence. Et ce n'est pas la même d'un territoire à l'autre. Donc nous, on offre des solutions sur étagère et venez vous servir. Avec joie et bonne humeur, on y arrive toujours. Donc quels sont nos axes de travail ? On en a trois. Notre premier, au CNRA, on n'est pas un think tank, on ne va pas produire des grands rapports à lire tous les quatre matins. Non, nous, notre premier pilier, c'est de relier les acteurs entre eux. On est avant tout un réseau, aussi bien de solutions, j'en ai parlé, de ces solutions sur étagère, mais aussi d'expertise. Et donc, on fait se rencontrer les acteurs pour qu'ils ne réinventent pas la roue sur leur territoire et qu'ils se connectent. Ils vont se connecter, donc ils vont se connaître, ils vont se comprendre. Et après, s'ils travaillent ensemble, tant mieux. Nous, on reste associatifs, donc on n'est pas très intéressés. Mais en tout cas, on a à cœur qu'ils se connaissent. Le deuxième levier, ça va être effectivement, on fait un peu de lobbying. Nous, on appelle ça de l'influence, parce que ce n'est pas que descendant. Effectivement, on organise une journée au Sénat et on a à cœur d'expliquer la résilience alimentaire. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est à l'écoute du terrain. On est à l'écoute de ces signaux faibles pour en parler au ministère de l'Agriculture, pour en parler à la Banque des Territoires, pour en parler aux interprofessions, pour en parler à qui de droit, parce qu'ils ont besoin d'entendre aussi ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et notre troisième axe de travail, ça va être d'outiller. Parce que, comme je disais, nous, on ne parle pas pour ne rien dire. Et donc, on a une boîte à outils avec plein de solutions qui sont très concrètes. Bon, bien sûr, notre premier outil, ça va être notre réseau, nos contacts, nos membres qui sont chacun porteurs de solutions. Mais après, on a écrit un guide de bonnes pratiques pour la résilience alimentaire avec AFNOR, avec 150 bonnes pratiques. Enfin, les 06, hein, carrément, donc il faut y aller, il y a les URL, il faut en profiter.
Où est-ce qu'on trouve ça ?
On le trouve sur le site du CNRA, sur le site de l'AFNOR, sur les flyers qu'on distribue, sur LinkedIn, on est très présents sur LinkedIn, les réseaux sociaux. Après, on a une formation, par exemple, pareil, toujours sur le site du CNRA. On a un baromètre. En ce moment, on a deux projets un peu phares qui sont vraiment chouettes. C'est un projet sur l'agritourisme, parce que l'agritourisme, il y en a qui connaissent peut-être l'agritourismo italien, qui est très chouette, qui marche bien. En France, on a tout. On a le patrimoine, on a les solutions, on a les acteurs, on a les agriculteurs. Enfin, on a plein de gens qui ont des super solutions, mais on n'est pas encore très bon là-dessus.
Oui, le bienvenu à la ferme est souvent assez limité à des visites annuelles et pas assez à quelque chose du quotidien qui en plus peut apporter à l'agriculteur un complément de revenus. En plus de faire connaître aux gens un métier et une passion.
Mais c'est exactement ça, parce qu'au-delà de ce complément de revenus, il y a aussi une notion d'emploi, une notion d'appétence et de connaissance. Les enfants ne choisissent pas spontanément le métier d'agriculteur parce qu'il n'y a plus que 2% d'agriculteurs en France. Donc forcément, quand on ne connaît pas d'éleveur ou de maraîcher, ben on n'est pas attiré par ça. Le réseau Bienvenue à la ferme et l'agritourisme en général y contribuent largement. Et puis on a une vraie clientèle touristique française et étrangère en France qui est en demande de ça. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on peut faire. On a aussi une campagne de sensibilisation sur qu'on a appelée Ma cantine locale, qui vise vraiment à objectiver le recours aux approvisionnements locaux pour les cantines scolaires. Pour que le champ soit pas trop loin de l'assiette, justement. Et puis on va aussi travailler sur des trophées. On veut mettre en valeur des acteurs qui portent des solutions qui soient vraiment en accord avec la résilience alimentaire des territoires. Voilà nos trois grands axes.
Alors là, on est au Salon des maires, ici. Les municipales approchent. Des gens qui vont devenir maires, des gens qui le sont déjà et qui veulent donner une nouvelle impulsion à leur territoire, comment ils peuvent agir? Quel est leur rôle dans cette résilience à construire ensemble? Et donc les liens, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont à construire avec le privé et comment?
Merci beaucoup Nicolas pour ta question. D'ailleurs, elle tombe à propos puisque le CNRA propose 7 piliers fondamentaux. On a écrit un document qu'on distribue aux maires de passage et qu'on va diffuser sur les réseaux et sur notre site internet pour justement contribuer de façon courageuse à cette véritable transition écologique, parce qu'on n'est pas sur du greenwashing au CNRA, pas du tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, il ne peut pas tout faire. Ça, c'est certain. Et il faut qu'il reste à sa place. Par contre, il peut prendre des décisions de politique locale courageuse pour mettre en place les conditions pour que les acteurs économiques, j'ai envie de dire, de son territoire, que ce soit des entreprises, des agriculteurs ou des associations, puissent agir avec le plus de visibilité et de soutien.
Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place?
Alors, je vais avoir des exemples très concrets. Il y a des maires qui viennent me voir et qui me disent là, sur notre stand, nous, on a du foncier. Ce serait bien qu'on fasse pousser des légumes et que ce soit du bio et que ça aille dans la cantine directe. Mais le maire, il n'est pas agriculteur. Donc, il ne peut pas lui-même aller planter ses choux et ses carottes et les faire aller. Et non plus, il n'est pas agent de recrutement. Donc, il ne sait pas sélectionner le bon maraîcher, etc. Par contre, il peut faire un appel et de dire « j'ai du foncier ». J'aimerais le mettre à disposition d'un maraîcher et je peux m'engager en face pour lui dire une partie de ta production maraîchère, je m'engage à l'acheminer vers la cantine scolaire de ma collectivité. Ça, c'est un acte courageux.
Oui, et au lieu d'essayer de recruter lui, il va aller voir, par exemple, la Confédération Paysanne qui a l'ADR, où des porteurs de projets sont là, ou même à la, FN, enfin, à la Chambre d'Agriculture, pour voir les porteurs de projets qui peuvent être intéressés et le faire avec des circuits professionnels.
Mais c'est exactement ça. Et nous, au CNRA, on va référencer ces acteurs qui proposent des solutions. Parce que tu as parlé, les structures dont tu as parlé sont tout à fait pertinentes. Il y en a aussi d'autres. On connaît depuis longtemps Terre de Liens. Il y a aussi des acteurs comme Ferme en Vie, comme Eloi, qui ont, enfin Eloi m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, ils ont genre 8000 acteurs qui sont prêts à reprendre des exploitations. À un moment où on dit que plus personne ne veut reprendre une ferme, ben chez eux il y en a. Donc faut pas.
Et surtout des petites fermes qui sont reprises par le gros céréalier local, alors qu'elles pourraient créer quelque chose à une échelle plus modeste, mais plus en lien avec la demande du territoire et des habitants.
Oui. Alors là, pour le coup, nous, on a une position bien particulière au CNRA. On ne dit pas que la grande ferme est méchante et que la petite ferme est bonne. En fait, peu importe.
Mais c'est bien de multiplier les agriculteurs sur le territoire.
On a complètement raison. On a besoin d'agriculteurs, on a besoin de diversification aussi pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais quand même, peu importe finalement la taille de l'exploitation, la taille de la ferme, du moment qu'elle est vertueuse. Là où on a une attention particulière, c'est que il faut faire attention à ne pas être sur de la monoculture. Donc typiquement, les gros céréaliers, on en rencontre plein, on leur dit mais pourquoi vous ne mettriez pas 1, 2, 5, 10 hectares en maraîchage pour la collectivité? Et il y en a de plus en plus qui le font. Donc on est dans une attitude vertueuse. Il y a de plus en plus de fermiers qui s'embarquent dans cette situation-là. On ne veut pas les stigmatiser, on veut les mettre à l'honneur, on veut les mettre en avant. Mais surtout, on veut travailler ensemble et avec eux. Parce que mine de rien, si on a un céréalier sur une collectivité et le maire de la commune d'à côté qui dit ben, « je m'engage à acheter X tonnes sur un contrat de long terme », mais ça change tout, ça change complètement tout. Et cette contractualisation, parfois tripartite, elle arrive et elle avance. Et tout le monde a son rôle à jouer dans l'aventure.
On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un appel à lancer aux gens? Quel appel tu as envie de lancer, toi, aux Français, quels qu'ils soient?
Ne pas perdre foi, surtout. Les solutions sont là. Le sujet est absolument d'actualité. Il est passionnant. On ne peut pas tout attendre d'en haut. On a chacun notre rôle à jouer. C'est un peu la politique du colibri. Mais surtout qu'on ne le joue pas tout seul. Et bah, venez nous rejoindre au CNRA. On sera heureux de vous accueillir, de vous écouter, de vous connecter et de vous mettre en lumière, surtout.
Et donc un site internet
CNRA-France.org.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.